Les enjeux internationaux.
À 6h50 sur France Culture. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Erner. On reviendra d'ailleurs, Cécile Alps peut parler évidemment de Schengen. On y reviendra demain avec notre invité Christian Lequen à propos de la politique migratoire allemande et des débats évidemment intra-européens. Alors ceci sans rapport avec cela, évidemment les conséquences économiques et sociales de la chute du cours du baril, les conséquences pour le monde arabe. Notre invité El Moub Mood, qui est professeur d'économie à Paris Dauphine. Il y a un an et demi, l'Arabie Saoudite avait brusquement organisé la baisse du cours du baril en augmentant l'offre mondiale. Plusieurs pays producteurs non arabes en pâtissant aussitôt. On se le rappelle, l'Iran, les États-Unis, la Russie, le Nigeria, le Venezuela, qui deviennent les premières réserves mondiales prouvées devant Riyad. Et dans les pays arabes, l'Algérie, bien sûr, a été l'une des principales victimes. L'Arabie Saoudite elle-même, qui s'est punie d'une certaine façon. Alors on revient justement à l'Arabie Saoudite, sa décision il y a un an et demi, El Moub Mood, Paris Dauphine.
En fait, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite qui est à l'origine de cela. Il y a aussi des facteurs internationaux liés en fait à la crise mondiale et à une surproduction pétrolière qui fait que le prix effectivement du pétrole a chuté. Et aujourd'hui, donc, on est dans une situation où beaucoup de pays arabes ont perdu en réserve de change, en recettes d'exportation de manière absolument substantielle. Donc la conséquence essentielle que je vois, c'est que si vous voulez, l'équilibre qui s'était instauré depuis 2010-2012, depuis ce qu'on a appelé le soulèvement démocratique ou le printemps arabe, c'était qu'en effet, certains pays avaient échappé à ce changement en achetant la paix sociale grâce à, finalement, puisement dans les recettes des hydrocarbures. C'était le cas de l'Algérie, c'était le cas de nombreux pays, l'Arabie Saoudite également, tandis que d'autres qui étaient plus menacés et plus, disons, insérés dans le processus de changement, étaient plus fragilisés. La Tunisie, l'Égypte, évidemment, sans parler de ceux qui ont sombré dans le chaos, comme la Syrie et la Libye. Cet équilibre est en train de se modifier parce que, précisément, les pays qui ont joué l'achat de la paix sociale sont en train d'être extrêmement fragilisés, et c'est le cas, en effet, de l'Algérie, qui risque de connaître dans les années à venir, en particulier dès l'année prochaine, une situation de tension interne tout à fait importante.
Est-ce que El Moub Mood, est-ce qu'il est pertinent de diviser en trois ces pays arabes, c'est-à-dire ceux qui sont évidemment des grands producteurs et des exportateurs, ceux qui achètent du pétrole et ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire plus ou moins autosuffisants? Est-ce que c'est une distinction qui vous paraît aller de soi ou est-ce que vous raisonnez autrement?
Disons qu'il y a plusieurs typologies sur le classement des pays de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Il y a une typologie qui est assez intéressante, c'est de regarder ceux qui ont une population importante et qui n'ont pas de revenus pétroliers, et ceux qui ont une population faible et qui ont plutôt des revenus pétroliers. Alors ça, c'est des pays du Golfe. Le premier cas, c'est des pays comme l'Algérie. Et puis, entre les deux, vous avez les pays qui sont à population relativement importante et qui sont plutôt dans des situations de spécialisation dans l'agriculture ou les produits manufacturiers ou le tourisme. Donc, le point commun tout de même à tous ces pays, c'est que tous ces pays, quelle que soit leur structure économique, c'est qu'ils sont quand même assez dépendants des recettes extérieures, que ce soit le tourisme, par exemple, pour l'Égypte et la Tunisie. On voit bien que la difficulté de ces pays, c'est l'effondrement du fait du choc lié au terrorisme, à l'insécurité, à l'instabilité, des recettes liées au tourisme. Et s'agissant des pays comme l'Algérie, bien la dépendance à 97% des recettes des hydrocarbures et l'importation de tous les biens de consommation et des biens d'équipement et des biens intermédiaires en font en fait des pays rentiers. On a affaire à un ensemble de pays qui n'ont pas su diversifier leur économie, qui n'ont pas su, utiliser dans les périodes de boom pétrolier, de boom des recettes extérieures, qui est la bonne période pour faire des réformes structurelles et diversifier l'économie. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont affecté ces réserves à l'achat de la paix sociale ou à la subvention terrible, hein, des biens de consommation, des transferts sociaux. C'est le cas de l'Algérie. Un quart du budget est affecté aux transferts sociaux du budget de l'État. Et donc, pendant la période de boom, n'ayant rien fait pour diversifier l'économie, ces pays vont subir le contre-choc des recettes extérieures, que ce soit lié au tourisme ou que ce soit celles qui sont liées aux hydrocarbures. Et en fait, on a quand même, malgré les différences nettes de structure économique entre ces différents pays et de niveau de population, on a quand même un point commun qui est lié à cette incapacité à créer une technocratie capable de prendre des décisions et de mettre en place des réformes structurelles qui permettent la diversification de ces économies.
Alors on pense évidemment à l'Arabie Saoudite en la matière notamment. Alors ce qui est curieux, c'est qu'elle s'est d'une certaine façon un peu punie elle-même en prenant cette décision il y a environ un an et demi. Et d'autre part, c'est précisément un pays qui, je parle sous votre contrôle, mais a du mal à s'industrialiser. On voit que dans ces pays, la phase d'industrialisation, de pré-industrialisation est souvent très modeste.
Oui, tout à fait. C'est le cas de la plupart de ces pays. Les pays du Golfe sont un tout petit peu différents parce qu'ils ont réussi une plus grande diversification de leur économie, en particulier dans la finance, s'agissant des Émirats Arabes Unis, ou dans même l'enseignement supérieur, la connaissance, etc. C'est pas vraiment le cas de l'Arabie Saoudite, bien qu'une industrie agroalimentaire commence à naître et quelques éléments de croissance industrielle. Je dirais que l'Arabie Saoudite est dans une situation moins difficile encore que le cas de l'Algérie. Le cas de l'Algérie est vraiment inquiétant.
Alors, est-ce que l'Algérie, hein, ce qu'on appelle communément un fonds souverain, est-ce qu'elle a une cagnotte finalement ? Est-ce que c'est le cas de ces grands pays pétroliers arabes ?
Oui, alors l'Algérie a fait comme beaucoup de pays, a mis en place un fonds de recettes, un fonds de régulation des recettes des hydrocarbures au début des années 2000, qui est en fait un compte du Trésor auprès de la Banque centrale et qui permet de prendre donc toute la fiscalité pétrolière et des hydrocarbures au-dessus de 37 dollars le baril et qui permet de financer une partie du budget, du déficit budgétaire, de financer l'emploi, hein, tous les mécanismes de soutien à l'emploi et aussi de financer des infrastructures, des choses comme ça. Ça n'a pas été vraiment un fonds qui a été placé pour les générations futures comme ça l'a été le cas en Norvège par exemple ou en Azerbaïdjan. C'est un fonds qui a plutôt servi à redistribuer de l'argent pour financer le déficit budgétaire ou pour financer des opérations ponctuelles. Alors donc là, évidemment, ce fonds est en train de fondre. On est à peu près maintenant, on va être à quelque chose comme 10-15 milliards de dollars, ce qui fait que, évidemment, les réserves de change chutent d'un quart à peu près. On était à 200 milliards de dollars il y a à peu près 2 ans, on est maintenant à 150 milliards de dollars. Donc vous avez une chute des réserves de change, un effondrement de ce fonds, et la situation n'ayant absolument pas changé, au contraire, ayant même empiré, puisque le taux de chômage s'est accru, en particulier le taux de chômage des jeunes. Le taux de chômage rural est extrêmement élevé, et donc en dépit de tous les efforts qui ont été accompli pour financer l'emploi, eh bien là, l'économie et la société algérienne se retrouvent dans des situations, en fait, démunies où elle était sous perfusion, cette perfusion est en train de disparaître. Donc ça augure quand même des situations extrêmement compliquées pour l'avenir, et d'autant plus que la situation politique du pays n'est pas très claire.
Voilà, on reviendra d'ailleurs sur cette transition politique à terme qui surviendra bien un jour en Algérie. Alors, en ce qui concerne donc notre invité El Moub Mouhoud, professeur d'économie à Paris Dauphine, et bien sûr on peut le réécouter, le télécharger, franceculture.fr, et maintenant on peut le télécharger et le réécouter
sur le nouveau site.
Et ad vitam aeternam.
Et n'essayez pas de me piquer mon Paris Match,
non,
Thierry.
Non. Demain c'est l'Union Européenne, donc la politique migratoire, mon cher Guillaume, et notre invité sera Christian Lequen.